Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Relations. Au programme, conjuguer interculturalisme et antiracisme pour repenser le vivre ensemble. Et pour une école inclusive. Bonne écoute.
Conjuguer interculturalisme et antiracisme pour repenser le vivre ensemble. Un texte de David Carpentier, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022 de la revue Relations. David Carpentier, doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, est l'heureux gagnant de l'édition 2021 de notre concours d'écriture « Jeunes voix engagées », dans la catégorie Analyse. Voici le texte qui lui a valu une bourse de 500 $. Le débat public sur l'aménagement du pluralisme dans la société québécoise a connu un tournant important dans les dernières années. Depuis la commission Bouchard-Taylor et le débat sur la laïcité, on était habitué à la grande médiatisation et à la politisation des enjeux liés à l'expression du religieux dans l'espace public. Or, s'ajoute à ces discussions la question du racisme, que d'aucuns voudraient qualifier de systémique, et celle concernant la manière dont les institutions et les politiques publiques contribuent ou non à sa perpétuation. Alors que les gouvernements successifs semblent hésiter entre l'inaction et la négation, force est de constater que ce tournant met en cause les fondements de l'interculturalisme tels qu'ils ont été réfléchis par plusieurs figures nationalistes issues de l'école de pensée du libéralisme politique. De plus en plus associé à un discours sur la nation blanche par ses détracteurs, l'interculturalisme contribuerait à dissimuler et à maintenir les systèmes d'oppression du racisme et du colonialisme. Sa préoccupation pour la pérennité d'une nation francophone en Amérique du Nord ferait l'économie, voire carrément fi, d'une analyse permettant de déconstruire les processus d'exclusion des groupes racisés et marginalisés. Cette critique porte ainsi un projet radical d'égalité et de justice qui devrait se refléter davantage aux yeux de ceux et celles qui la portent dans la conception de la nation que met de l'avant l'interculturalisme. L'interculturalisme, une proposition libérale. Des intellectuels tels que Gérard Bouchard, Alain G. Gagnon et François Rocher ont contribué à populariser, surtout à partir de 2007, l'idée que le gouvernement du Québec devrait reconnaître formellement l'interculturalisme comme son modèle d'intégration des personnes immigrantes et de gestion de la diversité ethnoculturelle. Ce concept est présenté comme une voie mitoyenne entre, d'une part, le modèle assimilationniste français qui écraserait les différences au profit d'une identité nationale commune et, d'autre part, le modèle multiculturaliste anglo-saxon qui valoriserait plutôt l'expression des particularismes ethnoculturels, religieux et linguistiques dans l'espace public. Pour le sociologue et historien Gérard Bouchard, qui a grandement contribué à conceptualiser l'interculturalisme, notamment dans son essai « L'interculturalisme, un point de vue québécois », Boréal 2012, ce dernier assurerait un équilibre entre les aspirations identitaires légitimes d'une majorité historique d'origine canadienne-française et un pluralisme respectueux des minorités ethnoculturelles. Les notions d'équilibre, de réciprocité et de dialogue entre la majorité culturelle et identitaire dite « fondatrice » et les minorités ethnoculturelles sont au cœur de l'interculturalisme qui s'appuie sur l'idée centrale de contrat moral. ce dernier fait référence aux droits et aux responsabilités respectives de la société d'accueil et des personnes immigrantes. Il repose sur trois principes. Le partage du français comme langue commune de la vie publique, le respect des principes fondamentaux de la démocratie libérale reconnus dans les chartes et le droit et le devoir de toute personne de participer et de contribuer à la vie économique, sociale, culturelle et politique du Québec. Ces principes définissent la notion de culture publique commune, laquelle serait dynamique, tout comme sont évolutives les valeurs communes de la société, parmi lesquelles on peut retrouver l'égalité de genre, la laïcité et la primauté de la langue française. La primauté de cette dernière fait généralement consensus dans l'opinion publique et constitue le socle sur lequel l'interculturalisme libéral et l'idée de citoyenneté québécoise reposent. Par ailleurs, cette approche révèle aussi une conception particulière du rôle de l'État, dont l'intervention est vue comme étant légitime et souhaitable, afin de veiller à l'épanouissement d'une identité québécoise francophone et laïque. Écoutez, conjuguer interculturalisme et antiracisme pour repenser le vivre ensemble. Un texte de David Carpentier, paru dans le numéro 815 hiver 2021-2022 de la revue Relations. Une critique différentialiste. En s'inspirant des études postcoloniales et du pluralisme radical, une critique dite différentialiste de l'interculturalisme libéral a été formulée par des personnes comme Paul Hayde, Daryl Leroux et Daniel Salé. Selon cette perspective qui s'intéresse aux rapports de pouvoir qui participent au processus d'exclusion sociale, de racialisation et de reproduction du statut des groupes dominants, l'interculturalisme libéral serait problématique puisqu'il véhicule une conception de la nation centrée sur l'expérience qu'en font les membres de la majorité. Cette expérience particulière tend à être présentée comme universelle dans le discours public et serait imposée aux autres à travers les idées de culture publique et de valeurs communes. Le discours public portant sur ces valeurs, la laïcité et l'égalité de genre, par exemple, participeraient à la construction de représentations des personnes immigrantes et racisées comme posant une menace pour la nation québécoise et ses principes progressistes. Pensons aux femmes musulmanes, souvent représentées comme de potentielles victimes, sans agentivité, que l'État doit sauver, ou encore aux hommes musulmans souvent suspectés d'homophobie et de sexisme. Selon une critique différentialiste, l'interculturalisme et l'accent qu'il met sur la notion de réciprocité contribueraient aussi à dissimuler les rapports de pouvoir entre les différents groupes composant la société. Il demeurerait silencieux sur la propension qu'a la majorité à réaffirmer épisodiquement son hégémonie culturelle et à déterminer seule les conditions du vivre ensemble. À cet effet, la centralité de la langue française dans le discours public portant sur une intégration réussie serait problématique puisqu'elle occulterait l'importance d'autres barrières nuisant à la participation des personnes immigrantes ou racisées à la collectivité. La géographe Délice Mugabo souligne en ce sens que parler français ne protège pas une personne noire de Montréal de la violence et que la prépondérance de cet enjeu linguistique contribue à l'invisibilisation du racisme. Elle conteste l'idée dominante selon laquelle la société québécoise serait post-raciale et que la racialisation ne constituerait pas un facteur explicatif de l'accès inégal aux biens sociaux et aux ressources. Réconcilier l'interculturalisme avec sa critique. Cette critique radicale de l'interculturalisme libéral montre que la recherche d'un équilibre entre les aspirations identitaires de la majorité et le respect de la différence des minorités demeure difficilement réalisable tant que la majorité refuse de reconnaître son statut hégémonique et les responsabilités qui en découlent. Plutôt que de motiver la condamnation de l'interculturalisme et de sa conception de la nation de manière définitive, ces critiques ont surtout le potentiel de les ouvrir davantage à leurs propres promesses d'inclusion et de solidarité. En se décentrant de l'expérience de la nation faite par les membres de la majorité, l'interculturalisme pourrait devenir un vecteur d'émancipation pour tous les Québécois et les Québécoises, indépendamment de leur marqueur identitaire. Deux pistes de réflexion peuvent inspirer la réconciliation de l'interculturalisme avec sa critique différentialiste. D'abord, l'édification d'une culture publique commune et d'une citoyenneté québécoise doit devenir compatible avec l'objectif de démantèlement des systèmes d'oppression, du racisme et du colonialisme. Il importe de réaffirmer que les personnes immigrantes et racisées ont toute la légitimité nécessaire pour participer aux discussions sur les critères de l'appartenance à la communauté politique. Nous gagnerions collectivement à recadrer le débat sur la différence afin qu'elle ne soit plus présentée dans le discours public comme une menace à la cohésion sociale et à l'identité québécoise qui est pourtant en constante mutation. Ensuite, l'interculturalisme libéral doit placer en son centre une perspective antiraciste, laquelle peut se traduire concrètement par la production d'une réflexion critique sur la blanchité et la reconnaissance du caractère systémique du racisme. La voie empruntée par la Ville de Montréal, qui a mené en 2018 une consultation sur le racisme et la discrimination systémique, est un exemple à suivre si l'on souhaite éviter qu'une absence de prise en considération sérieuse du racisme ne contribue à une forme de désintégration sociale. La difficulté qu'éprouvent plusieurs personnes racisées, souvent même celles qui sont nées ici, témoigne de cette désaffection qui constitue aujourd'hui la plus grande limite au développement d'une citoyenneté québécoise. C'est seulement par l'engagement d'un véritable dialogue qu'on arrivera à la dépasser. C'était « Conjuguer interculturalisme et antiracisme pour repenser le vivre ensemble », un texte de David Carpentier, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022, de la revue Relations. Un texte de Marjorie Vidal et Marc-André Deniger, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022 de la revue Relations. L'autrice et l'auteur sont respectivement chercheuses postdoctorales au département d'éducation et de formation spécialisée de l'UQAM et professeures au département d'administration et fondement de l'éducation de l'Université de Montréal. Alors qu'elle devrait être le lieu qui permet aux jeunes de sortir de l'exclusion, l'école contribue trop souvent à reproduire les inégalités sociales. Une réflexion critique s'impose pour valoriser des approches plus inclusives. on commence à avoir assez de distance pour faire un bilan des effets de la pandémie sur les résultats scolaires et une tendance mondiale apparaît. Cette période sans précédent a accru les écarts entre élèves. Celles et ceux qui étaient en avance avant la pandémie le sont encore plus maintenant et celles et ceux en difficulté ont pris davantage de retard. Ce constat montre à nouveau frais l'urgence de mener une réflexion critique sur le rôle de l'école face aux inégalités sociales, afin d'en finir avec certaines idées reçues qui concourent à les reproduire. Idée reçue numéro 1. La compétition publique-privée est saine. La compétition entre les secteurs public et privé est un enjeu central dans le système d'éducation actuel. Un de ses aspects les plus manifestes est la liberté de choisir son établissement qui est entretenu entre autres par le palmarès scolaire réalisé par l'Institut Fraser, un think tank de droite, et débattu chaque fois qu'on soulève la question du financement des établissements privés. Or, au grand jeu de la compétition, ce sont les écoles privées qui s'en sortent le mieux, d'une part en procédant à une sélection qui se fait au détriment des élèves plus défavorisés, d'autre part en ne favorisant pas la mixité scolaire, puisqu'elles ne sont pas tenues au respect des principes d'égalité et de mixité. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir le faible nombre d'élèves en difficulté qu'elles accueillent. Cette compétition nuit au développement d'une école inclusive et égalitaire, car elle génère un système à deux, voire trois vitesses. En tête de peloton, on trouve des écoles privées élitistes qui reproduisent une forme d'endogamie sociale sur la base de la sélection scolaire. En deuxième ligne, des écoles publiques qui, pour rester dans la course, cherchent à attirer et retenir les meilleurs élèves en mettant en place des processus de sélection dans des programmes pédagogiques particuliers, comme les programmes internationaux ou les parcours enrichis, reproduisant à leur tour une forme de ségrégation scolaire. En queue de peloton se retrouvent des écoles dites « régulières » où les programmes particuliers se font plus rares, en particulier dans les milieux défavorisés et qui accueillent une diversité d'élèves sans faire de sélection. Idée reçue numéro 2. La mixité scolaire nuit aux élèves. Un des effets combinés de la compétition publique-privée est la plus grande homogénéité des groupes, la sélection scolaire faisant en sorte que les élèves obtenant les meilleurs résultats se retrouvent entre eux dans des écoles privées ou dans les programmes particuliers des écoles publiques les mieux notés. Les moins bons se retrouvent, pour leur part, regroupés dans des classes dites régulières quand ils et elles ne sont pas dirigés vers des classes de cheminement particuliers destinées aux élèves en difficulté. Ce regroupement par niveau, fort ou faible, est lié à l'idée selon laquelle la mixité scolaire ou l'hétérogénéité des groupes nuirait aux bons élèves. Autrement dit, que les élèves plus faibles scolairement tireraient le niveau général vers le bas. Or, des études démontrent le contraire, à savoir que la mixité est un atout pour réduire les inégalités. Elle a un effet positif sur le rendement scolaire. Les élèves de statut économique défavorisé gagnent ainsi à être scolarisés dans des milieux plus favorisés, et ceux et celles venant de milieux mieux pourvus ne voient pas leur rendement diminuer dans les milieux plus hétérogènes. Cette mixité favorise aussi des attitudes positives chez les élèves, notamment à l'égard de leurs pairs en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. À l'échelle internationale, les pays ayant aboli toute forme de sélection et d'homogénéisation, la Finlande en première de classe, sont ceux qui possèdent les systèmes scolaires les plus équitables et les plus performants. Idée reçue numéro 3. La réussite scolaire repose entièrement sur le mérite des élèves. Dans le domaine de l'éducation, le mérite est un principe central selon lequel l'école a pour rôle de valoriser les élèves « méritants » à savoir celles et ceux qui ont fourni les efforts nécessaires ou qui ont fait preuve de bonne volonté pour réussir. Or, le fait d'envisager l'éducation à travers le seul prisme du mérite pose plusieurs problèmes. Cette approche tend tout d'abord à restreindre l'école à sa fonction de sélection des bons élèves, mettant de côté tout le volet de la socialisation. Le mérite tend également à individualiser la réussite, mais surtout l'échec scolaire, puisque dans cette perspective, l'élève est seul responsable de ses résultats. Or, les inégalités scolaires découlent en grande partie des inégalités socio-économiques et culturelles, incluant les inégalités ethno-culturelles ou encore celles pouvant être liées au racisme. Ainsi, le niveau d'instruction de la mère, le capital social, la maîtrise de la langue, le rapport au savoir, par exemple, constituent autant de sources potentielles d'inégalités qui sont présentes dès l'entrée à l'école. Les écarts se creusent donc très tôt dans le parcours des élèves et se cristallisent à travers le choix de l'école, la composition des groupes classes, la qualité des options et les filières scolaires, jusqu'à l'orientation vers le marché du travail. Vous écoutez Pour une école inclusive, un texte de Marjorie Vidal et Marc-André Deniger, paru dans le numéro 815 hiver 2021-2022 de la revue Relations. Idée reçue numéro 4. L'école met tous les élèves sur un pied d'égalité. L'idée selon laquelle les élèves seraient égaux à l'école est bien ancrée parmi le personnel enseignant. Pourtant, la sociologie de l'éducation montre qu'au contraire, l'école n'est pas neutre. Certaines approches organisationnelles et pédagogiques peuvent contribuer à exclure des élèves de milieux défavorisés et ou issus de l'immigration. Elles contribuent à reproduire une norme pouvant nuire aux élèves qui n'en comprennent ni les règles ni le sens. Il s'agit par exemple de pratiques qui mettent l'accent sur l'instruction et la réussite académique au détriment de la réussite éducative, notion beaucoup plus large qui, en plus des savoirs académiques, inclut les savoir-être nécessaires à la vie en société et les compétences utiles pour l'insertion professionnelle. Sont également considérées comme normatives les pratiques qui privilégient le français et les mathématiques en négligeant les arts, la musique, etc., ou encore celles qui insistent sur l'évaluation sommative, l'atteinte des objectifs, aux dépens de l'évaluation formative qui renseigne sur la progression des apprentissages. Les enseignants et les enseignantes sont aussi porteuses de représentations normatives qui peuvent les conduire à catégoriser certains élèves en fonction de leur comportement en classe, de leur maîtrise de la langue, de leurs interactions, etc. Or, si un enseignant sous-estime le potentiel d'un élève de milieu défavorisé ou d'une origine ethno-culturelle particulière et qu'il diminue ses attentes à son égard, l'élève risque de s'ajuster en conséquence, ce qui aura un effet néfaste sur son comportement et ses résultats scolaires. Cet élément central et bien connu de la dynamique de la relation pédagogique est couramment appelé l'effet Pygmalion. Il nuit grandement au développement d'une école inclusive. Idée reçue numéro 5. L'école ne peut rien faire face aux inégalités. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres idées reçues persistent en éducation. Elles concernent par exemple la taille du groupe d'élèves, l'âge, le genre et l'ancienneté des enseignantes et des enseignants, les styles d'enseignement, la médicalisation des difficultés scolaires, etc. elles peuvent contribuer à minimiser le rôle de l'école dans la réduction des inégalités. Pourtant, il existe plusieurs approches scolaires innovantes pour que les écoles puissent être inclusives et mieux s'adapter à la diversité de leur public. Dans son avis intitulé « Pour une école riche de tous ses élèves » publié en 2017, le Conseil supérieur de l'éducation en recense un certain nombre. Parmi les plus prometteuses, mentionnons l'approche par les capacités proposée par l'économiste et philosophe Amartya Sen. Cette approche offre un changement de perspective sur la diversité en nous forçant à tenir compte de la réalité des élèves selon une approche globale qui inclut les ressources des élèves, leur environnement et leurs interactions avec celui-ci. À cet égard, le confinement a révélé ce qui se cache derrière la fracture numérique, que ce soit l'accès à l'informatique, ordinateur, connexion Internet, bande passante, etc., les espaces de travail à la maison, quand il y en a, le soutien familial ou encore les compétences inégales en littératie numérique. Quand on comprend que le ministère de l'Éducation a octroyé un budget pour le seul matériel informatique, on réalise qu'il ne s'agit que d'une goutte d'eau dans la mer des inégalités sociales. C'était, pour une école inclusive, un texte de Marjorie Vidal et Marc-André Deniger, paru dans le numéro 815 hiver 2021-2022 de la revue Relations.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.